Ses bottines en daim, il les avait repérées, il en avait envie, il en avait rêvé. Alors sa mère, il l'a tanné, et à l'usure, elle a fini par lui acheter. Il les brosse méticuleusement, la gauche, la droite, une fois, puissant, il se regarde, miroir en pied, il se trouve beau, c'est pas souvent. La tête haute, le torse bombé, il file vers la cour de récré, c'est sûr, il va faire son effet, ils vont tous enfin la boucler. Baisser les yeux? Non! Le regarder, sauf qu'une fois de plus, ils ont bien ri, et même à gorge déployée. Une fois de plus, se sont moqués, t'es une vraie fiotte, t'es un pédé, le petit garçon a encaissé. Comme d'habitude, les dents serrées, et cette boule dans la gorge nouée, aller en classe, ne rien montrer, rentrer le soir, ne pas craquer. À sa mère qui lui dit bonsoir, il répond, tout s'est bien passé. Fonce dans la chambre, la porte fermée, il peut y aller, ça va, ça s'entend pas, quand on pleure dans un oreiller.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Les croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Et vous ne remercierez jamais assez Christophe Beaugrand de vous avoir mis cette chanson dans la tête pour le reste de votre soirée. Bonsoir Christophe.
Peut-être même de votre vie. Bonsoir, bonsoir Julia, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste, animateur, présentateur de la matinale sur LCI le week-end et donc grand fan des crocodiles.
Des crocodiles, exactement.
Depuis un tout petit peu plus de 2 ans. Valentin est né le 9 novembre 2019 et depuis, on va dire que votre playlist n'est plus tout à fait la même. Mais au-delà, en vous faisant père, qu'est-ce que Valentin a fait de vous? Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, dans votre rapport au monde, voire dans votre façon d'être un homme?
Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait plus important que soi-même. Je fais un métier où on a tendance à se regarder un peu beaucoup et souvent trop le nombril. Et là, j'ai pris l'habitude de regarder un autre nombril. En plus, il est très mignon, son petit nombril. Je l'ai moi-même, c'est moi-même qui ai coupé le cordon avec mon mari Ghislain il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui lui ai mis la petite pommade, la petite bétadine pour soigner son petit cordon ombilical. Donc oui, effectivement, j'ai appris à prendre soin d'un petit être et avoir cette responsabilité comme ça qui vous tombe sur les épaules et en même temps ce shoot d'amour phénoménal. Oui, ça change tout et ça change rien en même temps parce que j'avais l'impression d'y être prêt depuis...
On va pouvoir en parler. Bref, une petite révolution pour vous, mais aussi le signe d'un monde qui bouge autour de vous, puisque Valentin, vous l'évoquiez, a 2 papas. Il est né par GPA. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez ce livre « Fils à papa, papa au pluriel » pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de GPA?
Exactement. C'est-à-dire que à la base, j'avais commencé à écrire des choses pour... retenir toute son histoire, retenir tout ce qui s'est passé, parce qu'il arrive tellement de choses, j'avais peur que ma mémoire finisse par me faire défaut et pour pouvoir tout lui raconter un peu plus tard. Et puis, il y a un éditeur qui m'a contacté l'été 2020, car il avait lu une interview qu'on avait donnée avec mon mari dans Gala.
Oui, parce qu'on l'avait toujours dit.
Notre parentalité. Oui, ouais. On en a parlé parce que c'est important de rendre visible. Et il m'a convaincu, cet éditeur, il m'a dit c'est important de mettre comme ça un coup de projecteur sur ses familles, sur... cette parentalité-là pour que les gens comprennent. Et du coup, je me suis acquitté de ce livre comme une mission aussi.
Mais en ce qui vous concerne, c'est assez logique parce que depuis toujours, vous avez dit que vous étiez homosexuel, ce qui est très rare.
Je me suis jamais posé la question, pour tout vous dire. Et j'ai jamais vraiment, en fait, fait de coming out public parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle au moment où j'ai eu, en tout cas, un petit peu de médiatisation en devenant présentateur sur Pink TV, qui était la première chaîne gay.
Oui, donc là, c'était signé.
Voilà, j'avais travaillé 2 ans sur LCI avant, mais j'étais pas connu du tout. C'est là qu'on s'est mis à s'intéresser un petit peu à moi. Donc, d'emblée, il y avait le package. Ouais. La question ne s'est jamais posée. Mais effectivement, beaucoup de mes collègues présentateurs, animateurs, ou présentatrice, ne le disent pas, ou font comme si, ou en tout cas, il y a une espèce de silence.
Mais on va dire que, pour vous, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes devant une caméra ou devant un micro, ça fait partie de votre rôle.
En tout cas, moi, je l'ai...
De vous engager, parce que vous l'êtes, auprès du refuge, auprès des associations, sur Twitter, vous participez aussi au débat public.
Je l'ai toujours vécu comme ça, en tout cas. J'ai le sentiment que quand on a une notoriété, quand on a une parole publique, il faut qu'elle puisse servir à quelque chose. Et il y a beaucoup de combats qui sont portés par beaucoup de gens, mais ce combat-là, cette visibilité-là, elle n'est pas forcément extrêmement... Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle nécessairement beaucoup. Alors, beaucoup plus maintenant, effectivement. Mais moi, j'en parle pas, comment dire... j'ai pas un porte-étendard, je suis pas un porte-étendard, j'en parle naturellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'étais chroniqueur dans la matinale de Canal+, au cours d'une question, etc., je pouvais répondre, on comprenait que, ouais. que j'aimais les garçons, parce que c'est une donnée, c'est-à-dire qu'on posera pas la question à quelqu'un qui en parle naturellement dans une discussion, qui parle de sa femme, moi je parlerai de mon mari, voilà, ouais. mais naturellement, il y a rien de revendicatif derrière.
Oui, sauf que c'est déjà politique de faire ça.
Complètement, d'une certaine manière, oui.
Alors vous nous raconterez ce chemin qui est le vôtre ce soir, de vos rêves de gosse à vos combats d'adultes, mais d'abord, s'il vous plaît, Christophe Beaugrand, prenez ce miroir.
Oui.
Prenez le temps de vous regarder.
Oh là, merde.
Ça commence bien. Dites-moi, dites-nous
ouais.
qui vous voyez aujourd'hui quand
Faut
vous
que
regardez.
Je me regarde en vous répondant, ça fait bizarre. Ouais. Qu'est-ce que je vois ? Qui je vois, pardon ?
Qu'est-ce que vous voyez ou qui vous voyez ? Là-dessus, vous avez le champ libre, carte blanche.
Je vois quelqu'un qui a eu la chance de réaliser les rêves qu'il avait quand il était petit garçon. Donc je vois la tête du petit garçon avec quand même pas mal de rides en plus, j'ai 44 ans.
Mais ça, c'est les nuits courtes. Hein.
C'est les nuits courtes et c'est mon boulot, je bosse beaucoup aussi, alors c'est de ma faute. Il y a les nuits courtes à cause de bébé et les nuits courtes à cause du boulot. Non, mais je retrouve surtout l'œil qui pétille que j'avais quand j'étais gosse et l'envie de bouffer la vie, malgré les difficultés, parce que je m'en suis pris un peu dans la figure quand j'étais petit. Ouais. Et je pense qu'on voit quelqu'un qui est épanoui aujourd'hui. Ouais. Et ça veut dire que c'est possible. Ça a mis du temps. Je me suis trouvé. Voilà.
En tout cas, vous avez un sourire qui est plein. Vous avez effectivement le regard lumineux. Vous êtes plutôt bien fait de votre personne, bien
je vous plaît, ça me fait plaisir.
Tout à fait.
Ça ne servira à rien. N'essayez pas de me draguer.
je vous aurai d'ici la fin de l'émission. Non, évidemment que non. Mais on demande ici à tous nos invités ce qui pourrait faire mauvais genre chez eux.
Ouais.
Là, ça saute pas aux yeux. Qu'est-ce qui fait mauvais genre chez vous ?
Alors, ce qui pourrait faire mauvais genre chez moi, ce qui a fait mauvais genre, c'est le fait effectivement d'assumer totalement qui j'étais, d'être homo, d'avoir ma famille homoparentale, d'être marié. Pour beaucoup de gens encore, c'est quelque chose qui fait mauvais genre. Mmh. Pas pour moi. Et pour beaucoup de gens, ça ne le fait plus mauvais genre. Et c'est très bien. Quand j'étais gamin, ça faisait mauvais genre. Ouais. C'est quelque chose dont on ne parlait même pas. Donc, moi, je pense que je suis toujours un garçon très optimiste. Donc, je pense que les choses avancent. Les choses avancent bien. Oui, peut-être que ça fait mauvais genre pour certains et ceux-là j'ai bien envie de les emmerder à continuer à faire mauvais genre. Mais sinon, ce qui peut faire mauvais genre aussi, c'est que je suis fan de Michel Sardou, alors ça fait mauvais genre. Ça va pas vous plaire.
Ça peut, on ne sait pas, préjugé.
Très belle chanson de Michel Sardou qui est sur l'homosexualité. Je sais pas si vous la connaissez.
Non.
Le Privilège, elle s'appelle.
Et comment vous essayez de racheter Michel Sardou, c'est extraordinaire.
Derrière
oui,
les murs de ce collège, ceux qui font tourner les manèges se sont-ils posé la question, y a-t-il un Dieu qui nous protège, une préférence, un privilège ? Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison ? Un garçon qui aime un garçon. C'est une très jolie chanson.
Eh bien, grâce à vous, Christophe Beaugrand, ce soir, on apprend que Michel Sardou est totalement gay-friendly.
Mais oui, mais oui.
Et on n'est pas à l'abri de nos surprises.
La
avec
vie est pleine
vous
de surprises.
Ce soir. Allez, c'est vous qui nous prenez par la main pour nous emmener sur cette drôle de planète du genre humain. À la technique, Thomas Langlin à la réalisation, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production, Ophélie Vivier. Ce que vous entendez là, aux joies, c'est le dernier titre de la fascinante pomme au clou sur France Inter.
Ça change de Sardou.
C'est ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Compter sans bruit les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous. Je suis pas vraiment là. fais pas pour moi. Ne t'en fais pas pour moi.
Mais quelle voix!
C'est très beau.
Hein. Ouais. Incroyable. Pomme sur France Inter. Fils à papa au pluriel, c'est le titre de votre récit, Christophe Beaugrand. Unique en votre genre, vous êtes notre invité et tout commence avec vous le 2 janvier 77. L'année vient de commencer. On est à la polyclinique de Massy, dans l'Essonne. Et vous, bah vous êtes né.
Unique en son genre.
Autour de vous, il y a donc Philippe, cadre commercial, loyal et bosseur, nous avez-vous dit en préparant cette émission, et Michel, mère au foyer, maniaque et parfaite. Parfaite vraiment ou voulant l'être?
Non, parfaite. Vous connaissez Brivande de Camp? Ben, c'est ma mère.
Personnage donc de la série Desperate Housewives.
Exactement. C'est-à-dire qu'elle sent la laque nette, elle est toujours impeccable, elle a toujours son brushing fait, le ménage est toujours impeccable. J'ai jamais vu quelqu'un repasser les chemises comme ça. J'aurais rêvé d'être aussi parfait, mais je n'y suis pas arrivé. Et même quand j'ai découvert mon homosexualité, elle a été parfaite.
Alors, ça, vous allez nous le raconter, mais pour planter le décor ensemble de votre enfance, donc on est avec cette mère, parfaite.
Exactement.
Mère au foyer.
Non, un peu maniaque, un peu chiante hein, quand même, parfois. Hein, quand même.
Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une distribution des rôles père et mère, homme et femme? Est-ce qu'on est sur un schéma, du coup, très classique?
Oui, un peu old school, on pourrait le dire aujourd'hui. Parce que ma mère, elle avait le look, tu sais, de la maman dans Boule et Bill. Donc, on est toujours avec l'aspirateur, avec le brushing fait, ouais. Papa qui rentre du travail. C'était vraiment ça, avec maman qui avait préparé le repas. Elle faisait beaucoup de cuisine, etc. Donc, c'est marrant parce que sa mère, ma grand-mère, travaillait, elle. Et ma mère a choisi, elle, de devenir mère au foyer. Ouais. Elle a fait des études, mais finalement, elle a choisi de s'occuper de ses enfants et voilà, d'accompagner son mari. C'est vraiment un côté... voilà. Mais peut-être que c'est ces valeurs familiales-là que j'ai voulu, à un moment donné, reproduire avec ma famille, même si elle n'est pas tout à fait pareille, puisque ce sont deux garçons.
Un petit détail près.
Un petit détail près, ouais.
Au quatrième étage de votre résidence, dans l'appartement au parquet 70, le petit Christophe passe beaucoup de temps dans sa chambre, faut dire, dedans, il y a la télé. Et la télé, ça le fascine, mais pourquoi ?
Alors, quand j'étais petit, moi, pour le coup, bah, j'aimais bien les dessins animés, la télé, etc. Mais très rapidement, quand j'étais vraiment tout gamin, j'étais vachement rejeté par mes petits camarades de classe. Je pense que j'ai senti la différence que j'avais, qui était d'être homosexuel, qui n'est pas tant une différence que ça, mais qu'on vit comme une différence assez violente quand on a cet âge-là. Et du coup, je me suis beaucoup réfugié dans la télévision, la radio et la télévision, beaucoup, qui m'a vachement accompagné.
Et vous disiez, j'irai là-bas, un jour, je serai de l'autre côté.
J'avais l'impression que... la vie était plus belle de l'autre côté de l'écran. Alors, je ne sais pas si elle est plus belle. J'ai la chance de pouvoir avoir réalisé ce rêve-là que j'avais quand j'étais gosse. Et de fait, la vie est très belle de l'autre côté de l'écran parce que je m'y amuse beaucoup et c'est la passion que j'avais. Mais heureusement, ma vie est très très belle des deux côtés maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça m'a accompagné. Moi, j'étais plus ami avec Dorothée quand j'étais petit qu'avec mes camarades de classe.
Alors, voilà. Il y a Dorothée, mais il y a aussi... Ricky la belle fille.
Oh oui.
Here we are, face to face, a couple of silver spoons. Hoping to find, we're two of a kind. Make it a go, make it grow together.
We're gonna find a way.
Et donc nous avons un duo, Christophe Beaugrand.
J'adorais cette série.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécial pour vous ?
Alors cette sitcom racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Ricky, donc, et qui avait une belle vie, c'était Ricky la belle vie, qui est élevé par son papa qui est tout seul. Qui est multimilliardaire, donc il vit dans une espèce de château avec tout. Il a un vrai train dans sa chambre, etc. Dans le salon.
Ok, donc ça, on peut comprendre que ça fascine.
Et surtout, il était très beau. Ouais. Je le trouvais très beau. C'était un petit blond.
À quel point est-ce que vous le trouviez beau? Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler désir aujourd'hui?
Ah ouais, quelque chose de l'ordre du trouble en tout cas.
Ouais.
Mais il y avait, et pour tout vous dire, c'est marrant, dans le générique, je l'ai revu il n'y a pas longtemps puisque j'avais fait une interview, on m'avait reparlé de Ricky la belle vie, donc j'ai revisionné le générique et je me souviens de l'émotion que j'ai quand, à un moment donné, dans les images du générique, il a une fausse moustache. Et alors je trouvais que c'était très sexy cette moustache.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que c'est pas normal, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, normal compte tenu des injonctions normatives dans lesquelles vous évoluez, dans lesquelles on évolue
oui,
tous.
Oui, on comprend ça tout de suite. Ouais.
Ouais, vous sentez ça ?
Oui, on comprend. Bah, j'ai compris tout de suite que j'avais une attirance pour les garçons.
Vous mettez des mots dessus. Homosexuel, c'est un mot que vous connaissez à ce moment-là.
Je ne sais pas si je connais le mot homosexuel, mais j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui ne collait pas par rapport à la majorité de mes autres petits camarades et par rapport, effectivement, à ce qu'on vous raconte dans les médias, et ce qu'on vous explique et les histoires qu'on lit à l'école, dans les bandes dessinées, dans les séries, dans les films, etc. En principe, c'est le prince charmant, il est avec la princesse. Et je me rendais bien compte que je ne collais pas à ce schéma-là. Très vite, ça s'est accompagné d'une angoisse de qui j'étais, qu'est-ce que j'étais, est-ce que j'allais pouvoir être heureux, et surtout j'allais bouleverser la famille. Moi, c'est surtout ça qui m'avait perturbé.
Vous dites il y a la peur de décevoir.
Parce que je pense que quand on est gamin, l'une des obsessions qu'on peut avoir, c'est que vos parents soient fiers de vous et soient que vous ne posiez pas problème dans la famille. Et là, j'avais peur de devenir le caillou dans la chaussure. Voilà, le truc qui va faire dérailler une sorte d'équilibre et de
surtout avec Brie Van de Kamp.
Avec Brie Van de Kamp qui pourrait ne pas apprécier. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai 44 ans, donc cette découverte-là dont je parle, c'était le début des années 80. Je suis né en 77, c'était 85, quelque chose comme ça. J'avais 7-8 ans.
Et puis on est au tout début. Des années SIDA.
Exactement. C'est-à-dire que la découverte de l'homosexualité est arrivée en même temps que la découverte de ce qu'on appelait, ce que certains appelaient, il y avait le cancer gay.
C'est ça.
C'était les unes des magazines, c'était ça.
Donc c'est terrifiant et on fait tout pour que ce soit terrifiant.
Exactement. Donc il y avait un certain nombre de d'informations qui arrivaient de tous les côtés qui me faisaient dire que c'était quand même un peu compliqué. Mais paradoxalement, j'ai jamais eu envie de me conformer à quelque chose qui ne me correspondait pas.
Quels sont à ce moment-là vos rapports avec les autres garçons de la classe ou de l'école et avec les filles ? Là, je parle, on est sur la fin de l'école primaire, sur le début de la préadolescence.
Une angoisse de la promiscuité. Mes parents ont essayé de m'inscrire au foot pour que je fasse un peu de sport. C'était le mercredi après-midi et j'ai tenu 2 mois et je pleurais à chaque fois qu'il fallait y aller. C'était une horreur.
Vous n'aviez pas de copains ?
Non, pas du tout.
Et avec les filles ?
J'avais des copines, mais c'était compliqué. Je me sentais en décalage totalement avec. Donc moi, j'étais un enfant très solitaire. J'ai eu un copain, en CM2, j'étais un peu plus grand, et enfin j'avais le sentiment qu'il y avait un petit garçon qui s'intéressait à moi, et qui n'était pas moqueur, il me protégeait même dans la cour, il était super, il s'appelait Fabien, et c'est marrant, c'est une histoire que j'avais oubliée complètement. Ouais. Quand j'ai écrit le livre, sur ces chapitres-là, j'avais pas prévu de revenir autant sur mon enfance, et les premiers chapitres...
Et sur les bottines en daim non plus.
Sont sur mon enfance, voilà, ces fameuses bottes de filles dont vous avez parlé, on me disait que c'était des bottes de filles, moi j'ai trouvé qu'elles étaient très jolies, mais... Ça m'a valu des moqueries un peu violentes. Et ce petit garçon, je me suis dit, mais alors oui, on peut être ami aussi avec un petit garçon, je peux être digne d'intérêt aussi. Ça a contribué à aider pour ma confiance, la confiance en soi. Ouais. Mais c'est très difficile, cette période de l'enfance. Moi, je me suis senti vraiment bien que... À 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à me sentir un peu mieux dans mes baskets à cette époque-là.
Alors à ce moment-là, le soir, quand vous vous enfermez dans la chambre, c'est plus pour regarder la télé. Enfin, pas tout le temps, parce que parfois, vous allumez la radio, vous mettez Skyrock et vous écoutez Super Nana.
Après l'hippocampe bleu, le dinosaure jaune et violet, en quoi va-t-elle se transformer ?
Super Nana, c'est déjà une super souris.
Le prince de Hénin, champion du Perlimpinpin.
Gloire à son nom. 16 1 42 36 96 deux fois. Super Nana sur Ciel Mon Roc en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le Marquis de Carrera, le Baron Ragondin d'Amour, le Comte Beaubizarre.
On est en 1993, Christophe Beaugrand, vous avez 16 ans.
Ouais.
Que vous apprend cette émission de Libre Antenne sur vous ou sur le monde autour ?
Oui, c'est une animatrice démentielle qui s'appelait Super Nana, qui est disparue depuis... Oui, parce que c'était bien une femme, elle avait une voix bizarre, mais souvent on lui disait, la seule animatrice qui a une voix d'homme, elle était extraordinaire et c'était surtout une animatrice extrêmement gay friendly pour le coup et qui m'a fait découvrir par procuration un peu le monde gay de la nuit. Moi j'avais l'impression en écoutant ses émissions, elle parlait du Queen, cette fameuse boîte parisienne homosexuelle qui était sur les Champs-Élysées à l'époque et j'avais l'impression qu'elle ouvrait une porte sur un possible et surtout c'était très drôle, il y avait beaucoup de dixièmes, de quinzièmes degrés, elle m'a, je pense, initié à ce qu'on appelle l'humour camp. C'est une expression américaine. Ouais. C'est l'humour homo totalement décalé. Il y a un type d'humour qui ne correspond pas forcément à tous les homos, mais il y a une espèce de type d'humour de dérision permanente et totale où absolument rien ne doit être pris au sérieux. Tout doit être tourné en dérision parce que la vie est beaucoup trop grave pour la prendre au sérieux.
Alors vous vous ouvrez petit à petit à ce monde-là, mais un soir, il y a votre mère qui frappe à la porte de votre chambre, elle rentre. Tu n'as rien à me dire, vous demande-t-elle. La suite du dialogue, c'est quoi?
La suite du dialogue, c'est...
La première fois qu'elle vous en parle.
Hein. La toute première fois, c'est... Je sens qu'elle comprend qu'il y a un truc qui cloche et qu'il y a cette espèce d'attirance que je dois avoir, etc. Et elle me dit cette phrase, à un moment donné, on échange un petit peu, elle essaye de me tirer les verres du nez. Et moi, je botte en tout, j'essaye de parler d'autre chose. Et elle me dit, tu sais, dans la vie, il faut jamais s'écarter du droit chemin. Et là, me dis, ok, elle a bonne nuit. Et là, vas-y, va t'endormir.
Ok, voilà. Et en fait, ce qui vous a grillé auprès de vos parents, c'est les factures de téléphone, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'était à cause des factures de téléphone, parce que il y avait, vous savez, sur les journaux gratuits qu'on recevait, sur la dernière page, il y avait toujours des 0836 machin là, des numéros de messagerie ou de trucs de cul, en fait. Et il y avait, alors évidemment, moi, gamin de 15-16 ans, Internet n'existait pas pour les plus jeunes qui nous écoutent, donc. Moi, je vois un truc en disant « Écoute ces hommes faire l'amour au téléphone ».
Alors
moi, j'appelle pour voir à quoi ça ressemble. Sauf que c'est genre 4 euros la minute. Donc, mes parents se sont retrouvés avec des notes de téléphone astronomiques jusqu'au moment où ils ont demandé la facture détaillée en pensant qu'il y avait un problème.
Et là, ils comprennent, mais vous n'en parlez pas. Donc, non. Ça veut dire que vous évoluez dans une maison où tout le monde sait, mais personne ne dit rien.
Tout le monde se doute, en tout cas. Alors, je pense que ma mère se doute, parce que je pense que mon père ne s'est pas vraiment intéressé au numéro. Ma mère a dit « Ah oui, ça doit être des jeux pour... » Je sais que ma mère avait protégé, entre guillemets, protégé, c'est un bien grand mot, mais avait essayé de mettre de côté mon père de cette histoire. Et elle avait raconté une connerie en disant que c'était des jeux pour gagner des trucs au téléphone, etc. Elle avait bien entendu ce que c'était, les numéros de téléphone. Voilà.
Comme vous avez entendu le message qu'elle vous a fait passer, vous essayez de rentrer dans le droit chemin, vous rencontrez une certaine Edmée, l'histoire n'est pas tout à fait convaincante, hein, votre mère d'ailleurs, elle n'est pas convaincue du tout. Et elle vient vous trouver une deuxième fois.
Ouais.
C'est elle qui vous aide à faire votre coming out?
En fait, je l'ai jamais vraiment fait. C'est elle qui l'a fait pour moi, parce que effectivement, ma mère a évolué.
Elle a fait une trajectoire incroyable.
Parce qu'elle aimait son enfant, elle aimait son fils, et je pense que il y a rien de plus extraordinaire qu'être parent dans la vie, et que la mission première quand on est parent, c'est de faire en sorte que son enfant soit heureux. Mmh. Et du coup, elle a décidé d'aller voir une psy en l'occurrence, non pas pour essayer de me guérir, comme certains parents ont fait ce genre de tentatives qui ne fonctionnent pas. Si vous nous écoutez, ça ne sert à rien, ne faites pas ça, parce qu'il n'y a rien à guérir. En revanche, elle voulait savoir comment elle l'acceptait et comment me parler pour ne pas commettre d'impair, pour ne pas me braquer, pour essayer de m'accompagner, entre guillemets. Et du coup, elle est venue me voir en me disant qu'elle avait compris, qu'elle m'aimait tel que j'étais, etc. Et elle a fait cet acte de générosité absolument incroyable, qui me semble aujourd'hui, en fait, je l'ai beaucoup admiré et je l'admire toujours. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit garçon, ça me semble tellement évident ce qu'elle a fait au final.
Après, l'époque a changé aussi.
Exactement.
Quand même.
Mais je me dis, quand on aime son enfant, il n'y a pas d'autre possibilité que ça. C'est évident.
En tout cas, suite à cette discussion-là, hasard ou pas, vous vivez votre première grande histoire d'amour avec Sébastien. Pour la première fois, écrivez-vous, vous vous trouvez beau dans les yeux d'un autre. Vous vous trouvez tout court, puisque vous intégrez par ailleurs l'école de journalisme de Bordeaux. Et on est à ce moment-là en plein débat sur le PACS. L'homophobie va reflamber dans le débat public et puis à la télévision.
Christine Boutin en a fait son combat. Porte-drapeau de la droite conservatrice, elle mène une véritable croisade contre le PACS. Elle défendra 150 amendements. Car pour elle et ses amis, le pacte civil de solidarité n'est qu'un mariage homosexuel qui ne dirait pas son nom.
Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels parce que je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité. L'homosexualité est par nature la difficulté d'atteindre l'autre dans sa différence. Et quand on ne peut pas atteindre l'autre dans la différence, c'est l'exclusion.
Extrait du JT de France 3 en octobre 98. Vous le regardez sans doute, Christophe Beaugrand, avec vos grands-parents depuis le canapé du salon. Vous vivez chez eux le temps de vos études. Enfin, pas si longtemps que ça, parce que votre grand-père un jour vous fout à la porte.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il me fout à la porte parce que il a discuté avec ma grand-mère, il s'est rendu compte que j'étais homosexuel et ça lui a posé problème. Donc il trouve un prétexte pour me mettre dehors et puis rapidement je comprends le véritable motif de ce renvoi, de cette voilà, j'ai été congédié et j'ai
Comment vous le comprenez ? Que c'est ça.
Je comprends parce qu'on en parle avec ma grand-mère en fait, et puis qu'après il en parle avec ma mère à différentes réunions de famille, en allant la voir, l'air peiné en disant quelle catastrophe, hein, Christophe, hein, c'est vraiment la honte de la famille. Et là, et effectivement, j'ai appris a posteriori que j'étais surnommé la honte par lui. Hein, j'étais surnommé la honte de la famille.
Votre mère réagit comment à ce moment-là ?
Ma mère se met très en colère et elle veut plus parler. C'est plus ma mère qui m'en a parlé. Mon père, c'est son père à lui. Hein, donc, mais mon père a toujours été un peu plus mutique, on va dire. Mais je sais que ça a définitivement casser quelque chose et je sais que j'apprendrai après qu'il a dit de toute façon il a toujours été un vieux con, donc ça ne s'est pas arrangé. Non, mais ce qui a été le plus violent en fait, au-delà de cette période là qui a été très difficile, et en même temps il y a toute la famille, le reste de la famille qui s'est serré les coudes et qui m'a soutenu. Donc il n'y en avait qu'un finalement qui posait problème dans cette famille. C'est pour ça que je soutiens le refuge aujourd'hui, parce que l'association Le Refuge qui recueille les enfants qui se sont fait mettre dehors par leurs propres parents quand ils ont découvert qu'ils étaient gays, bi, trans, etc., et que c'est devenu insupportable à leurs yeux, moi j'ai été soutenu par le reste de la famille. Mais je sais ce que c'est que ce rejet-là, qui est extrêmement violent. Ce qui a été le plus dur, c'est que j'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 24 ans, il en avait 53, mon grand-père était toujours vivant. Je pensais pouvoir renouer avec lui à l'occasion de l'enterrement de mon papa, et du coup il est venu en train de Bordeaux jusqu'à la région parisienne où on vivait, où mon père a été enterré, et je suis allé chercher à la gare avec mon cousin David, qui n'est pas de sa famille, qui est de l'autre partie de la famille, mais qui le connaissait. Et quand il est sorti, on est allé le voir, il est sorti du train, c'était un vieux monsieur, il fallait l'aider un peu à marcher le long du quai. En plus, il venait enterrer son fils quand même, ce qui est une période difficile, là, évidemment. Et il ne m'a même pas regardé, il ne m'a pas pris dans ses bras, il a pris dans ses bras David, qui donc avec lequel il n'a aucun lien puisque c'était de l'autre partie de la famille, et il ne m'a jamais adressé la parole. Si je conduisais la voiture, il était assis derrière et on est allé jusqu'à l'église, et voilà, j'ai bien compris ce jour-là, j'avais encore un espoir parce qu'on a toujours l'espoir de renouer et qu'on peut renouer, qu'il faut pas penser que tout est fini même quand on a subi le rejet, mais là en l'occurrence la croix a été faite et c'était comme ça, voilà.
Alors vous vous jurez, Christophe Beaugrand, de devenir un jour la fierté de la famille. Les années passent, Sébastien vous quitte, 9 ans après votre rencontre. Vos projets d'enfance, c'est un temps avec une amie, Sophie, que vous allez les dessiner. Mais non, trop compliqué quand les désirs au fond ne sont pas les mêmes. Et puis l'amour, ça peut pas se décréter, on est en 2010. Vous avez quitté Canal+ pour TF1 en chemin. Celui que vous avez trouvé, c'est Ghislain. C'est avec lui que vous vous marierez, avec lui que vous aurez Valentin. Mais chut, ça, vous ne le savez pas encore.
Shine.
Likely Follow Rivers sur France Inter. Ça, c'était pour le son de votre rencontre avec Ghislain Christophe Beaugrand, ouais. Le fond sonore. Hein. Pour le reste, elle avait quelle saveur, cette rencontre? Si on est sur une échelle de 0 à 10 du film hollywoodien, on a combien?
Je ne sais pas si on pourrait dire film hollywoodien, parce que ça n'a pas commencé par vraiment un coup de foudre amoureux. Ça a été assez physique.
C'est à l'usure.
Non, ça n'a pas été à l'usure. Ça a été un coup de foudre, mais plus physique.
Plutôt physique.
Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est parlé après.
Alors vous avez toujours...
Donc je ne sais pas si c'est très hollywoodien finalement, pardon. Dépend des films.
Ça peut l'être, mais de façon plus suggérée, on va dire.
C'est ça, exactement. Voilà.
Mais on est dans le subliminal.
Mais en tout cas, non, mais ça a été en revanche une rencontre de l'ordre du coup de foudre, parce qu'on s'est trouvé et ça m'a surpris, parce que la différence d'âge me perturbait beaucoup, moi. Parce que j'ai 12 ans de plus, donc j'avais l'impression qu'on n'allait pas avoir forcément les mêmes envies, les mêmes.
Alors
les mêmes
justement,
centres d'intérêt.
Vous avez cette envie d'enfant, elle est tenace, elle est coriace, elle est croissante même avec le temps. Vous avez 34 ans, Ghislain, lui, 22. Alors pour lui, il n'en est pas du tout question.
Ah bah non, non.
Bah non, mais voici François Fillon.
France Inter, unique en son genre.
Oui, on le disait, hein, depuis tout petit, depuis Ricky la belle vie, vous vouliez devenir papa. Mais vous avez dû mettre votre désir d'enfant au placard. On est en 2016-2017, la présidentielle approche. Parmi les sujets récurrents de la campagne, que faire du mariage pour tous? Depuis 4 ans seulement, les couples d'hommes et de femmes peuvent se marier. C'est encore tout récent, le sujet explosif à laisser des traces en chacun. Pour soigner l'électorat de droite, certains candidats promettent de réviser la loi Taubira. C'est le cas de François Fillon, par exemple. Le 21 novembre 2016, il était donc sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Alcabache et de Thomas Soto. Ce qu'il dit n'échappe ni à Ghislain, ni à vous.
Oui, j'ai des valeurs. Et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Je crois à la famille, je crois à l'autorité de l'État, je crois au travail. Ce sont des valeurs qui font rire à l'intérieur du périphérique, mais qui, dans le cœur des Français, sont au contraire des valeurs profondément ancrées.
Contrairement à Alain Juppé, vous voulez réécrire la loi Taubira et interdire, en l'occurrence, l'adoption plénière par les couples homosexuels, François Fillon. On va prendre un cas concret, si vous voulez bien. Un couple homosexuel qui est en procédure en ce moment d'adoption plénière, si vous êtes élu, que deviennent-ils? On arrête tout, on brise cette famille?
L'adoption plénière sera une adoption simple. Voilà. Pourquoi? Quel est le sujet? C'est pas, il s'agit
donc,
pas d'interdire.
Donc il y a les familles comme il faut et les autres?
Non, c'est pas du tout ça le sujet. Il s'agit pas d'interdire l'adoption à qui que ce soit. Il s'agit de donner aux enfants le droit de connaître leur filiation. Voilà. On a toujours une filiation. Il y a toujours un homme et une femme qui sont à l'origine d'un enfant, qui lui ont transmis des gènes, qui lui ont transmis ce qu'ils sont eux-mêmes. Et évidemment, ça a des conséquences. Ça conduira à l'adoption simple. C'est que l'adoption simple ne change rien au sujet. Simplement, on ne substitue pas une adoption fictive à l'adoption réelle.
Vous entendez ça? Vous avez peur l'un pour l'autre ou pour la suite?
Oui, c'est-à-dire que avec Ghislain, on avait déjà évoqué l'idée d'avoir un enfant, mais j'attendais qu'il soit prêt. Je lui mettais pas la pression parce que on peut pas se sentir obligé pour se lancer dans un projet comme celui-là, surtout via une gestation pour autrui, parce que c'est long, c'est compliqué, etc. Et du coup, ça a été une sorte de déclencheur parce que là, on le voit, en l'occurrence, c'était pendant une émission de télé, un débat, mais il développait exactement les mêmes arguments, François Fillon. Et là, Ghislain se retrouve. Tourne vers moi et dit faut y aller, faut lancer la procédure là. Parce qu'on a peur de ce droit-là qui était né au moment du mariage pour tous. On a peur qu'on soudain on nous enlève quelque chose, on nous enlève ce que j'avais attendu pendant des années. Et il y a eu une vraie peur de l'élection de François Fillon.
Et la procédure, c'est donc le mariage et les enfants. Vous songez un moment à l'adoption?
Oui, l'adoption, j'avais commencé à me renseigner, mais l'adoption, le problème, c'est que dans les faits, alors ça a un peu progressé depuis, hein, pour être juste, mais c'est quand même encore très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué pour un couple hétérosexuel, des amis qui ont attendu des années avant qu'on leur confie un enfant, mais de fait, on confie très rarement des enfants à des couples homosexuels. C'est la réalité. Il y a, je crois, une quarantaine de couples homosexuels à qui on a confié un enfant depuis la loi Taubira de 2013, du mariage pour tous. Donc, c'est très compliqué. Il y a des enquêtes sociales très compliquées. Et c'est assez rare quand, finalement, ces enfants sont confiés à des familles homoparentales. Donc, du coup, on reproche parfois à des couples d'avoir recours à la GPA, mais c'est que parfois, on n'a pas tellement le choix, en fait.
Alors, vous, la GPA, où est-ce que vous vous situez à ce moment-là par rapport au débat de fond? C'est-à-dire qu'on est en France où la GPA est interdite,
ouais.
Où jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, elle suscitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences. L'opinion publique est en train de basculer, mais c'est tout récent.
Ouais.
Vous, est-ce que ça vous posait des questions d'ordre philosophique, éthique, sociétal?
Je me posais évidemment des questions parce que c'est pas quelque chose qu'on fait de manière anodine. Il y a quand même effectivement une femme qui va porter un enfant pour vous pendant des mois. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et quand on se met à chercher, et c'est ce que je raconte dans le livre, quand on se met à chercher des renseignements, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. C'est le problème. Vous tombez sur des agences, notamment certaines basées en Espagne, qui visiblement vous proposent, vous font miroiter des choses avec des filières en Ukraine. Et là, vous comprenez très vite, quand vous vous renseignez un petit peu, qu'il y a des choses vraiment pas jolies, jolies derrière, et quelque chose de l'ordre du trafic et de femmes qui sont utilisées alors qu'elles sont dans la misère, etc. Et là, évidemment, à aucun moment on songe à avoir recours à une GPA dans ces conditions-là. Mais quand on se plonge vraiment dans sur cette question de plus profondément, on se rend compte qu'il existe aussi ce qu'on appelle une GPA éthique aux États-Unis ou au Canada, où là, les choses se font dans le respect de la femme. Moi, j'aurais pas pu, c'était vraiment la condition sine qua non, j'aurais pas pu regarder mon gamin dans les yeux et me regarder dans la glace si j'avais à aucun moment utilisé, entre guillemets, une femme dans la misère, dans le désarroi. Ça aurait été... voilà, la fin ne justifie pas les moyens, c'est pas possible à un moment donné.
Vous allez nous raconter comment ça s'est passé, ce que veut dire très concrètement cette GPA éthique, ce processus très encadré. On pourra pas tout raconter.
Non, bien sûr,
mais
c'est
long. Mais donc, si vous manque des choses, et ben vous savez quoi, vous avez qu'à lire le livre.
Mais ça, j'ai fait 300 pages. Non, mais c'est que c'est très long, il y a beaucoup d'étapes.
Non, mais évidemment, c'est long, c'est complexe. Mais en gros, le point de départ, c'est Jarry, l'humoriste. Jarry, oui. Qui est passé par ici il y a peu de temps, d'ailleurs, qui est papa, lui, de deux jumeaux nés par GPA. Il vous parle d'une certaine Bernadette.
Oui.
Qui est Bernadette?
Alors, Bernadette,
c'est quoi son rôle?
C'est une coordinatrice dans une agence, parce qu'en fait, aux États-Unis, il faut passer par une agence qui vous met en relation avec des données d'ovocytes avec des mères porteuses, car ce n'est jamais la même femme. Ça, c'est une précision importante.
Est-ce que vous pouvez expliquer l'idée?
Alors, il y a 30 ans de recul pour la GPA aux États-Unis, et effectivement, l'idée, c'est de qu'il n'y ait le moins d'attachement possible entre la femme qui va porter le bébé et
pour que la séparation soit la moins douloureuse possible.
Exactement. Mmh. Et du coup, voilà, il y a un recul, et il n'est pas possible aux États-Unis pour une femme de porter un enfant si elle en est la génitrice. Ça n'est pas possible. La réglementation est extrêmement précise. Vous savez que les États-Unis, c'est très judiciarisé. Donc cette agence vous met en relation avec des cliniques, avec des assurances, avec des avocats. Il y a toute une partie juridique très complexe, je le disais, société très judiciarisée. Et vous accompagne tout au long de ce processus. Et il se trouve que dans l'agence dont nous avait parlé Jarry, une coordinatrice française s'occupe plus précisément des parents d'intention, c'est comme ça qu'on dit, les intended parents, des parents d'intention français. Et elle s'appelle donc Bernadette, elle est difficile à joindre, et on se rend compte que voilà, il y a beaucoup d'étapes et que c'est pas, voilà, il suffit pas de cliquer, d'appuyer sur un bouton pour commander entre guillemets un bébé sur Internet.
Et il suffit pas d'avoir l'argent non plus.
Et il ne suffit pas d'avoir l'argent.
Vous allez passer un certain nombre d'examens à la fois psy et médicaux.
Exactement, bien sûr. Et c'est vrai que je sais que certains parents d'intention ne passent pas les tests psychologiques parce que on leur dit vous n'êtes pas encore prêt pour vivre ce parcours-là. C'est quand même quelque chose de très particulier. Ça prend du temps. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans une GPA éthique, ce sont les femmes qui décident de tout. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte vous postulez à
parce qu'elles sont moins nombreuses que le nombre de
exactement elles sont moins nombreuses
qui voudraient.
Et du coup, ce sont les donneuses d'ovocytes et les mères porteuses qui font leur choix, qui disent voilà, par exemple pour les donneuses d'ovocytes, je ne veux pas donner à des couples homosexuels, par exemple, ou je ne veux pas donner à des couples étrangers, mais uniquement à des familles américaines. Ouais. Ça peut arriver. Et je veux garder un contact ou je ne veux pas garder de contact avec
Et pour
cette
vous, ça c'était important?
Ah, c'était indispensable pour moi, effectivement. Nous, c'était indispensable de pouvoir garder le contact avec elle s'appelle Bruna en l'occurrence, mais avec notre donneuse d'ovocytes pour que notre petit garçon puisse connaître toute son histoire, car c'est la seule chose valable dans le discours qu'on a entendu de François Fillon il y a quelques instants, qu'il était important pour un enfant de connaître ses racines et de connaître son histoire. Sauf que là où on n'est vraiment pas du tout d'accord avec François Fillon, c'est qu'effectivement la parentalité et la génétique, les gamètes, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a d'un côté cette femme-là, et puis après, Whitney, qui a porté notre petit garçon, et là encore, on a discuté avec quatre femmes différentes, elle avec trois couples différents, et on a eu un feeling réciproque, et une fois qu'on a fait ce Skype où on a fait connaissance pour la première fois, on a envoyé un mail à la fameuse Bernadette, en lui disant elle est géniale, on a eu un super feeling, et là, on croisait les doigts pour qu'elle ait le même, et Bernadette nous a appris que Whitney avait envoyé le même mail quasiment en même temps. Donc, voilà.
Alors, parallèlement,
c'était un coup de foudre.
Celui-là, oui.
Ouais, pour le coup, celui-là, oui.
Parallèlement, c'est un autre aspect majeur de ce chemin que vous avez entamé, Ghislain, et vous préparez votre mariage.
Oui.
Ghislain, vous avez fait sa demande à New York un 31 décembre, aux 12 coups de minuit et aux lumières de Broadway. Quand on vous dit qu'ils sont romantiques, c'est de l'enfant qui finissent par l'être.
Mais c'est moi qui ai fait la demande.
Ah,
mais j'ai confondu.
Non, c'est moi qui ai fait la demande.
Il a mis des couteaux dans ses yeux, il va m'engueuler. Un an et demi plus tard, le 28 juillet 2018, très exactement, en Avignon, vous voici au bras l'un de l'autre, traversant l'allée, le parterre de vos invités, sur l'épaule, l'ombre bienveillante d'Étienne Dao, qui vous souhaite le meilleur pour le premier jour du reste de votre vie.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles.
Et c'est ce jour-là, le jour de votre mariage, que vous annoncez à tous vos invités que vous avez entamé un parcours de GPA. Comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que certains de vos proches le savaient, mais pas tous.
Alors, on le fait de manière allusive. On explique et on dit que, voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà que c'est un projet en cours, mais on ne précise pas plus avant les choses parce que c'est encore... le début, mais en fait on a appris, c'est pour ça qu'on en a parlé, parce que c'était plus fort que nous, on a appris quelques jours avant, la veille du mariage, que le don d'ovocyte s'était bien passé, qu'on avait créé plein d'embryons, donc on avait plein de petits bébés potentiels, et ce qui nous a permis d'aborder ce mariage de manière encore plus joyeuse et épanouie. Et effectivement on a fait... quelques allusions. Donc après, certaines personnes nous ont posé des questions, d'autres n'ont pas demandé. Et puis après, le téléphone arabe a fait son chemin dans la famille.
À ce moment-là, ces embryons sont dans un incubateur artificiel au moment où vous vous mariez. Ils vont trouver, quelques temps plus tard, un nid plus naturel qui sera donc le ventre de Whitney. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Pourquoi elle vous dit oui?
Alors, je pense que ce qui nous a plu chez elle est... c'est ce sourire incroyable qu'elle avait. Je pense que c'est ce qui nous a le plus touché lors de la première rencontre via un Skype. C'est ce regard, ce côté... j'avais l'impression de rencontrer un ange, en fait. C'est quelqu'un d'une espèce de pureté, d'amour inconditionnel, quoi. Quelque chose... C'est marrant parce que on a une vision complètement inversée des choses. En France, par exemple, les personnes les plus homophobes, c'est généralement lié à de très fortes croyances religieuses. Pas toujours, hein. Heureusement, tous les croyants ne sont pas homophobes, hein. C'est pas ce que je dis, mais l'inverse est souvent vrai, en revanche. Aux États-Unis, c'est le contraire. C'est-à-dire que très souvent, les femmes qui décident d'être mères porteuses, y compris pour des couples homosexuels, c'est parce que pour elles sont souvent très croyantes, et pour elles, il n'y a rien de plus beau que de donner la vie, en fait.
Et c'était son cas?
Alors elle n'est pas, c'est pas une femme d'église, elle n'est pas une croyante totalement, mais elle a un côté un peu mystique. Et en tout cas, elle nous a expliqué très rapidement que elle avait quelqu'un de son entourage qui l'avait fait, et que elle avait trouvé que c'était un truc extraordinaire, une aventure extraordinaire. Et elle avait, je pense, l'envie de, sur cette planète, de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Voilà.
Alors on précise qu'elle est mariée et heureuse en mariage, qu'elle a déjà eu 3 enfants.
C'est obligatoire aussi aux États-Unis. Il faut avoir, entre guillemets, terminer sa famille. Ça ne peut pas être une femme qui n'a jamais eu d'enfant, par exemple, pour devenir mère porteuse.
Elle est défrayée à hauteur de 40 000 dollars, j'ai calculé, ça fait à peu près 3 000 euros par mois.
35 000 dollars.
Ça fait à peu près 3 000 euros par mois, sauf
à
que
peine,
on sait, enfin, toutes les femmes qui ont porté des enfants savent ce que ça peut représenter comme investissement physique et financier aussi.
Exactement, ça vous avez raison, on oublie de le dire souvent, mais que même pour les femmes qui nous écoutent, là, quand on est enceinte, ça a un coût aussi, parce qu'il faut faire garder les enfants quand on a d'autres enfants et qu'on est fatigué, qu'on est obligé parfois de s'arrêter un peu de travailler. Donc il y a des primes qu'on ne touche pas, par exemple. Il y a aussi la fatigue physique, et ça ne se quantifie pas vraiment.
Mais Whitney n'est pas dans le besoin.
Non, c'est plus de l'ordre d'un dédommagement. C'est-à-dire que les femmes qui portent des enfants aux États-Unis dans le cadre d'une GPA éthique doivent avoir de bons moyens financiers. Ça ne peut pas être des femmes dans le besoin. Il ne faut pas que la gestation pour autrui soit un moyen d'avoir des revenus. C'est pas du tout ça l'idée. Il y a une partie dédommagement, et c'est logique, parce que il y a du temps. Et puis ça prend plus que les 9 mois de grossesse, parce qu'avant, il faut prendre un certain nombre de traitements anti-rejet qui sont assez lourds. Mmh. Ça prend du temps. Il y a tout un tas de d'examen qu'elle a dû faire. Il faut acheter des vêtements, bien sûr, parce que quand votre ventre bien grossit, sûr. Etc. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte.
Alors, elle va vivre une grossesse un petit peu particulière, puisqu'elle porte un enfant
ouais.
Qu'elle n'élèvera pas. Vous, comment est-ce que vous vivez une grossesse qui se passe si loin de vous ?
Alors, c'est vrai que c'est particulier parce qu'il y a des milliers de kilomètres ouais. du côté de Las Vegas et nous, on est à Paris.
Comment on fait pour ce... Déjà que pour un père, c'est souvent compliqué et que...
Des potes me l'ont dit, ça, oui.
Et qu'ils deviennent pères au moment où l'enfant arrive. Vous, en plus, il y a la distance kilométrique. Comment vous faites ?
C'est marrant parce que il y a des amis qui me disent ça, des amis hétéros qui me disent, moi je m'en suis rendu compte, moi j'avais l'impression de l'être depuis le début en fait, je suis pas ouais. du tout vécu ça comme ça. Non mais on était extrêmement proches via le téléphone, on faisait des Skype ou des FaceTime tout le temps. Jacob, le mari de Whitney, qui est un mec exceptionnel, enfin voilà, c'est devenu des amis très proches maintenant, c'est presque de la famille. Toute cette histoire, on l'a vécu comme si on était à côté et j'écrivais, j'enregistrais sur mon téléphone des petits messages pour Valentin. Qu'elle faisait écouter. Ouais. Voilà, on parlait avec Ghislain, on lui disait bonjour. Qu'elle lui faisait écouter pour qu'il entende parler français, qu'il entende notre voix. Et où, généralement, Jacob filmait le moment où on faisait écouter et on voyait le petit ventre qui bougeait et ça. Et puis on est allé la voir pendant la grossesse, à 5 mois. On est allé la voir, voir ça. On a fait l'échographie des 5 mois, l'écho 3D, là, où on imagine voir le visage et en fait on voit un petit cochon parce qu'on voit pas trop ce que c'est. Mais c'est génial.
Et aujourd'hui, elle est où pour vous ? Vous la situez où dans votre galaxie ?
Alors, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, mais où est sa mère ?» Mais en fait, c'est...
C'est pas ce que j'ai demandé, attention, je dis « Où est Whitney ?»
Non, bien sûr, non mais justement, j'explique que ce n'est pas ça, en fait. C'est pour ça, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là, et je peux la comprendre. Mais il faut bien comprendre que dans notre schéma familial, qui est différent de la majorité, mais qui existe, il y a ces deux parents, qui sont deux hommes, qui sont deux papas. Et il y a deux femmes qui nous ont aidés à devenir parents, qui sont Bruna et Whitney, mais en aucun cas, ce sont ses mamans. En aucun cas, il y a un... Parce que les gens disent, ah, mais oui, vous lui avez pris son enfant, elle l'a abandonné, etc. Mais en aucun cas, il y avait de l'abandon, il n'y a que du don dans cette histoire. Ce sont quatre personnes qui se sont mises ensemble, et deux femmes qui nous ont aidés, nous, à devenir parents. Donc, elles existent dans la galaxie de l'univers de notre petit garçon. Il y a des photos des deux dans sa chambre. On lui montre régulièrement, notamment la photo qui est dans le livre qu'on a prise la veille de la naissance de Valentin, où elle est avec une robe rouge derrière chez elle, dans le désert du Nevada, et avec son gros ventre. Et j'explique à Valentin, voilà, t'étais dans le ventre de Whitney. Voilà, c'est une dame qui t'a aidé à arriver au monde, un peu comme de bonnes fées. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais il n'y a pas de maman dans cette histoire. Il y a deux parents et ce sont deux papas.
Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe en France, juridiquement,
oui.
La situation de Valentin, c'est quoi ?
Alors, ça, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais c'est un peu ouais. compliqué. Il y a eu une circulaire de Christiane Taubira oui. en 2013, après le mariage pour tous, pour faciliter l'obtention des papiers. C'est-à-dire que quand on est rentré en France, il est né sur le territoire américain, donc il est américain, il rentre avec un passeport américain, notre petit garçon. Et là, on fait la demande de papiers français qu'on a obtenu en un mois et demi, délai classique. Donc, il a son passeport et sa carte d'identité française. En revanche, Christiane Taubira s'est arrêtée un petit peu au milieu du chemin parce que n'est pas allée jusqu'au bout de l'état civil. C'est-à-dire que cet enfant est reconnu comme français, avec à partir de papiers américains et de documents américains qui instituent sa parentalité. Et vous savez, on coche la case, au moins un de ses deux parents est français pour faire des okay. demandes de papiers. Sauf que l'état civil n'existe pas, donc ses parents n'existent pas aux yeux de la loi française. Donc là, il faut partir
donc
sur...
Donc vous êtes qui ?
Là, nous ne sommes rien. Ni le père d'intention, ni le père génétique. On n'existe pas, en fait, au lieu de la loi française. Puisqu'à l'état civil, notre enfant n'existe pas. Donc, sa filiation n'existe pas. Il n'y a que la filiation américaine. On a l'acte de naissance américain où il y a écrit que nous sommes les deux papas. Dans l'état du Nevada, nous apparaissons comme les deux papas de Valentin. Et donc là, on part sur un dispositif juridique qui s'appelle une exéquature de jugement. C'est-à-dire qu'un juge français va rendre valable sur le territoire français le jugement américain qui institue la parentalité. Et là, ça a pris un an à peu près. Maintenant, on a l'acte de naissance français de Valentin avec ses deux papas qui sont Ghislain et moi, et là c'est écrit, il a sa filiation et donc ses grands-parents existent aussi, mais pendant un an il y avait un flou, c'est-à-dire que si jamais on avait eu potentiellement un accident de voiture, on serait morts tous les deux dans un accident de voiture par exemple avec Ghislain, ses grands-parents nous n'existant pas en tant que ses parents, sa filiation non plus, il aurait potentiellement fini à l'assistance publique parce que ses grands-parents n'auraient pas existé.
Et ce sera certainement l'objet d'un autre livre, on pourra en écrire des tomes sur les bizarreries, l'hypocrisie, la complexité du droit français. Si vous êtes pas sage, attention, l'un de ces vendredis, je vous fais le code civil in extenso. En attendant, Rémi Wolf, Grumpy Old Man.
passion. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me.
Et comme tous les vendredis, l'éminente Djoubaquette est au platine. Ce soir, vous retrouverez Pomme et Rémi Wolf, toute notre programmation musicale sur franceinter.fr, à la page d'Unique en son genre, évidemment. C'est-à-dire, si vous me suivez exactement là où pile poil, vous pouvez nous podcaster.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Et c'est l'heure d'ouvrir notre labo du genre. Question rituelle dans cette émission, Christophe Beaugrand. S'il y avait un objet qui raconte l'homme que vous êtes aujourd'hui, ce serait quoi et pourquoi ?
Ça va vous surprendre, je vais sortir de ma poche, parce que c'est cet objet-là.
Ah ! Décrivez-le s'il vous plaît.
Alors je vous décris cet objet, c'est la bouteille de parfum Jean-Paul Gaultier, le mâle de Jean-Paul Gaultier, qui est donc un buste masculin avec une marinière.
La fameuse.
Et un buste masculin bien gaulé quand même, hein, avec des belles épaules. Et ça, c'est mon parfum depuis 94 que parfum est sorti, et j'en ai jamais changé.
Donc 94, vous avez 17 ans, et c'est le moment où vous commencez à explorer
exactement
votre homosexualité.
Et le moment où je commence à m'assumer tel que je suis. Et mine de rien, cette petite bouteille de parfum, ça me rappelle les pubs qu'il y avait à l'époque où il y avait tous ces beaux garçons, ces beaux marins, qui à la fois exprimaient une espèce de virilité totale et en même temps de sensibilité et d'une certaine féminité. Et c'était une visibilité de l'homosexualité, c'était perçu comme tel en tout cas. Il y avait évidemment la grandiloquence d'un Jean-Paul Gaultier qui est un génie et qui a toujours assumé son homosexualité, etc. Et mine de rien, cette bouteille de parfum, moi je les gardais pendant longtemps, au bout d'un moment je les ai jetés parce que j'en avais trop. C'est un objet qui est très cher à mon cœur et qui, je pense que pas mal de gens de ma génération peuvent ressentir la même chose avec cet objet. Et en plus, il y a une cambrure, un petit derrière.
Mais il y a clairement
très sexuel.
Dans l'imaginaire collectif, il y a clairement un avant et un après Gautier, de toute façon, sur toutes ces questions-là. Il a clairement, on va dire qu'il nous a ouvert les chakras.
Exactement.
Christophe Beaugrand, merci infiniment d'être venu dérouler votre histoire ici avec nous ce soir. Fils à papa au pluriel, c'est aux éditions Plomb. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, toujours avec le même plaisir. Je vous souhaite un week-end plein d'amour et de gamètes, si possible.
Merci de tout cœur. Merci.
Laurent Goumin reprend les manettes juste après le flash côté club ce soir avec le DJ set d'Agoria et Enfant Sauvage, la moitié de The Blaze. Écoutez, vous comprendrez, hein, et vous aimerez.